Deuxième instruction.
Eh bien, je vous disais ce matin, j'évoquais l'Assomption. Je voudrais commencer par prendre deux exemples. Il y en a sûrement beaucoup d'autres dans la vie des saints qui a dû vous frapper à l'occasion de ce fait que le mystère de l'Assomption n'est pas réservé à la Sainte Vierge. Elle, évidemment, dans toute sa plénitude et dans toute sa splendeur, c'est un privilège marial. Mais c'est la plénitude de quelque chose qui est offert au moins à certains chrétiens, et j'espère le montrer bientôt sous des formes différentes et très mystérieuses et très paradoxales, j'en conviens, à tous les chrétiens. Mais alors, je voudrais d'abord vous donner l'exemple de quelques manifestations extrêmement claires du mystère de l'Assomption. Eh bien, d'abord, la bienheureuse Imelda. La bienheureuse Imelda, on conteste son histoire aujourd'hui, les historiens ont des doutes à son sujet. Ça m'est un peu égal. Enfin, ça m'est un peu égal qu'ils aient des doutes, eux. Ça ne me gêne pas dans ma dévotion envers la bienheureuse Imelda. Et ça me gêne encore moins pour reconnaître la réalité très profonde du mystère qu'elle nous dévoile. À savoir que, elle aussi, elle est morte d'amour, dirait Thérèse de l'Enfant Jésus, et nous allons revenir à Thérèse de l'Enfant Jésus tout de suite. Elle est morte de gloire, selon une physionomie de la mort qui n'est quand même pas celle dont nous avons l'habitude. Je vous rappelle pas l'histoire à proprement parler, vous savez qu'elle est morte dans une action de grâce, en recevant miraculeusement, alors c'est sur ce miracle qu'on peut avoir des doutes, ça m'est vraiment complètement égal, mais à la suite de sa première communion, elle s'est plongée en action de grâce et elle n'a jamais pu être réveillée, si j'ose dire. Vous savez d'ailleurs que les hypnotiseurs, c'est un problème pour eux quelquefois, n'est-ce pas, de réveiller les sujets qui font le voyage très mystérieux, d'ordre psychique et non pas spirituel, mais qui peut avoir des conséquences physiques inquiétantes et dont on peut ne pas revenir. Eh bien, là, c'est pas seulement psychique ni physique, c'est spirituel, mais avec des conséquences psychiques. Alors, celles de tous ceux qui sont un peu en extase, ceux qui sont un peu en communication avec l'au-delà comme Saint Paul l'a été, et puis des conséquences physiques, celles que soupçonne Saint Paul sans pouvoir les définir, puisqu'il dit « J'ai été élevé au troisième ciel, était-ce avec mon corps, était-ce sans mon corps, je ne le sais pas, Dieu le sait. » En tout cas, ça a eu pour la bienheureuse Imelda cette conséquence physique que l'âme a été séparée de son corps, et qu'elle a été séparée de son corps, c'est ça qui est très important, justement, pas à la suite d'une décomposition du corps. Pas le corps s'est décomposé après, faute d'avoir l'âme pour le soutenir, mais ce ne sont pas les dommages faits au corps qui l'ont rendu inapte à être animé par une âme humaine, ce qui est le phénomène naturel de la mort. Le retour à la poussière, c'est ça, c'est un vieillissement ou un accident qui entraîne une impossibilité pour le corps de continuer à être humanisé et vitalisé, si j'ose dire, par l'âme. Alors, dans le cas de la bienheureuse Imelda, c'est évidemment par ça. Le corps était tout à fait apte à être animé par l'âme, mais il n'était pas apte, et ça c'est très important, il n'était pas apte à être animé par la gloire. Voilà. Il était en état de recevoir une âme humaine, il n'était pas en état de recevoir une âme glorifiée. Et c'est ce que signifie la parole de Dieu à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire sans mourir, parce que ton corps n'étant pas glorifié lui-même, ton corps n'est pas apte, ton corps infirme, ton corps alors qui est vraiment celui dont nous avons l'expérience, n'est pas apte à supporter le poids de la gloire. Et quand je dis le poids de la gloire, c'est presque un pléonasme, c'est-à-dire une répétition de sens, pour celles qui connaissent un peu l'hébreu, le mot hébreu qui veut dire gloire, veut dire poids. C'est cette densité d'être, la dynamis tout est où dont parle Paul, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, c'est ce poids de la réalité divine qui est évidemment excessif, qui est ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, c'est ce poids qui, à un certain moment, si vous voulez, le corps peut supporter la fièvre jusqu'à 42 dixièmes, n'est-ce pas, pour Jésus de la fièvre, nous savons que c'est comme ça, puis qu'au-delà il ne peut pas, eh bien il peut supporter un poids de gloire jusqu'à un certain degré, et puis au-delà il ne peut pas. Et c'est pour ça déjà que Paul était certainement à la frontière, puisqu'il ne savait plus très bien s'il était avec ou sans son corps, et Imelda a franchi la frontière, et elle est partie. Elle est partie comme la Sainte Vierge, voyez, de la même façon. Bon, cet exemple d'Imelda peut alimenter en nous soit une rêverie, soit une méditation. Ben, il vaut mieux que ce soit une méditation qu'une rêverie. Mais la méditation est plus difficile que la rêverie. La rêverie, c'est de se dire, ça doit être bien, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est très agréable de mourir comme ça, et évidemment, si ça pouvait m'arriver, alors on peut poétiser, n'est-ce pas, sur cette manière d'être emporté dans la douceur de Dieu et dans la lumière de Dieu, sans connaître les affres de la décomposition, de la maladie ou de la mort violente quelquefois. Mais si on se contente de rêver, eh bien, on se contente de rêver, on est par définition dans la rêverie. C'est-à-dire que on se dit, ce serait bien, mais est-ce que ça me sera donné ? Bah, il y a des chances pour que pas, n'est-ce pas ? Pour que ça ne me soit pas donné. Alors, on est obligé de retomber dans le réel. Vous comprenez ? C'est l'ennui de la rêverie. Moi, je ne fais rien contre la rêverie. Et si on pouvait y rester, voyez-vous, ça, alors là, je serais très content. Malheureusement, on est obligé de retomber sur ses pieds. C'est pourquoi un écrivain français dit, et c'est ça que j'appelle une méditation, et que je vous propose que nous fassions, il dit, au fond, ce qui nous guérit du rêve, ce n'est pas moins de rêve, c'est plus de rêve, c'est tout le rêve. Au fond, c'est d'aller jusqu'au bout du rêve, vous voyez. C'est d'aller jusqu'au bout en telle sorte que la vérité qui est contenu dans la rêverie, soit dégagé avec suffisamment de force pour que nous ne soyons pas condamnés à retomber sur nos pieds en disant « ça va, oui, mais c'était pas vrai ». Ça n'est pas vrai pour nous, tout au moins. Hein. Alors, je pose la question suivante, comment se fait-il justement que certains êtres, comme la bienheureuse Imelda, puissent être possédés par la gloire de Dieu, et nous ? Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous ? Est-ce que ça ne nous concerne pas du tout ? Et si ça nous concerne, comment se fait-il qu'on s'en aperçoive si peu ? Alors là, on est dans une question réelle. Comment se fait-il que nous nous apercevions si peu de ce poids de la gloire ? Et alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite remarque qui, à propos d'Imelda, puisqu'on est sur la bienheureuse Imelda autant... J'ai pas souvent l'occasion de parler de la bienheureuse Imelda à des dominicaines, alors c'est une chance qui m'est donnée, j'en profite. Et, vous voyez, on peut très bien envisager que, et il est même sûr, qu'elle a souffert avant. Elle a souffert de désir. Et d'un désir qui pouvait être plus ou moins désespéré, car humainement, son cas était désespéré. Il faut bien se rendre compte de ça. Il faut bien se rendre compte que quand Saint-Esprit donne des désirs aussi fantastique que celui qu'elle avait de communier, le fait que ce désir ne soit pas satisfait et qu'aucune chance n'apparaisse qu'il puisse même être satisfait, ça c'est profondément désespérant. Il faut se rendre compte de ça. Il faut, vous voyez, nous avons toujours un peu l'habitude quand nous évoquons les splendeurs que Dieu fait, les merveilles qu'il fait à ses saints, à ses fidèles, nous avons l'habitude de ne penser qu'à l'instant où il donne la faveur. Et nous ne pensons pas suffisamment à ceux qui ont précédé. à ceux qui ont précédé. Exemple, un autre exemple, c'est celui du bienheureux Jacques de Voragine, qui a obtenu que, en regardant le crucifix, du sang jaillisse du côté du Christ, du sang ou une figure de sang, bien entendu. Je ne dis pas que c'était une réalité, puisque c'était un crucifix. Mais enfin, il a vraiment vu du sang sortir de ce côté, et cette parole retentir en lui au moment où le sang atteignait son propre cœur, que ce sang soit pour toi le gage du salut. Bon, bah c'est, on voudrait bien en avoir autant. Et quand on nous dit il faut vivre de foi, on dit bah oui, d'accord, vivre de foi, bien sûr. Mais enfin, si on pouvait de temps en temps vivre aussi de choses comme ça, ça aiderait peut-être la foi. Et c'est d'ailleurs ma conviction très profonde. J'y reviendrai. Il ne faut pas couper, comme on le fait quelquefois, beaucoup trop la foi et l'expérience spirituelle, parce qu'on arrive à faire de la foi quelque chose de très abstrait. Ça, j'y reviendrai. Mais inversement, il ne faut pas oublier que quand une expérience spirituelle comme celle-là, qui est plus que spirituelle, si j'ose dire, qui est sensible, tangible, et consolante, est donnée à quelqu'un, comme Jacques de Voragine, eh bien, elle a été normalement précédée d'une détresse sans nom. Où régnait alors, dans toute sa rigueur, l'austérité et l'obscurité de la foi. Il ne faut pas oublier ça quand même non plus. Et dans le cas de Jacques de Voragine, c'était un véritable désespoir, celui d'être sauvé. Et c'est parce que ce désespoir a atteint un certain point critique, un certain niveau critique, que nous, au fond, nous n'avons pas le courage d'atteindre. Quand je dis courage, c'est un mot dangereux. Parce que ça ne veut pas dire qu'on puisse atteindre à la détresse et au désespoir à la force du poignet. C'est presque contradictoire. Parce que quand on fait quelque chose à la force du poignet, c'est qu'on a une certaine confiance en soi. Or, justement, la détresse et le désespoir impliquent que précisément on a perdu toute confiance en soi, au moins en soi, je ne dis pas en Dieu, mais en soi, sinon ça ne serait pas la détresse et le désespoir. Et quand je dis que nous n'avons pas le courage, disons que nous n'avons pas la générosité, l'audace, la folie, de ne pas se protéger par différents petits trucs, dont nous pourrions parler, contre le désespoir et la détresse, alors nous déployons toute une industrie pour que ça soit vivable. Et nous perdons ainsi, quelquefois, la chance, car c'en est une, que Dieu ait pitié de nous, parce que tout de même, comme dit Cain, ma peine est tout de même trop lourde à porter. Quand Dieu voit ça, infailliblement, il s'attendrit. Et Paul dit, ce n'est pas une question d'effort et de record, mais de Dieu qui s'attendrit. Alors si c'est ça, le problème est le suivant, qu'est-ce qui va faire qu'il s'attendrisse? Eh bien, la réponse est claire, ce qui attendrit Dieu, ce ne sont pas justement nos efforts, ni nos records, ni même nos actes d'amour, ni même nos actes de générosité, c'est finalement notre détresse. Une détresse qui est d'autant plus attendrissante pour Dieu que c'est une détresse de ne pas trouver Dieu. Évidemment, si on est en détresse parce que on est sur un bateau et que le bateau va sombrer, ou qu'on a peur pour sa vie, pour sa peau, c'est une détresse qui peut attendrir Dieu, mais elle l'attendrit beaucoup moins profondément que la détresse spirituelle. La détresse de ne pas trouver Dieu parce qu'on est un pécheur, ou de ne pas trouver Dieu sans qu'on sache très bien pourquoi, parce qu'il est loin, parce qu'il résiste, parce qu'on ne sait pas. Hein. Or, c'est précisément ça qui va attendrir Dieu. Et qui va attendrir Dieu à un certain moment. À un certain moment. Mais pas 5 minutes avant. 5 minutes avant, il est attendri, mais on n'en sait rien. Imaginez un peu la psychologie du bienheureux Jacques de Voragine 5 minutes avant que le sang ne jaillisse. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes, je n'ose pas dire capables, mais est-ce que nous sommes prêts à connaître un état de ce genre? Si nous ne sommes pas prêts, si nous préférons éviter des états de ce genre, nous risquons d'éviter aussi d'obtenir cette consolation qu'il a obtenue parce que Dieu a eu pitié de lui, parce qu'il a vu vraiment que c'était trop. Comprenez, quand Dieu voit que c'est trop, alors là, ça, il ne résiste pas à nous donner une consolation de ce genre. Or, qu'est-ce qui fait que c'est trop? Ben, c'est précisément, alors là, oui, ce qu'on appelle la nuit de la foi, dans toute son austérité, et quelquefois la nuit de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que la nuit de l'espérance? Bien, c'est une espérance tellement profonde qu'elle n'alimente aucun espoir psychique. Parce qu'il y a le plan des profondeurs spirituelles qui sont complètement insaisissables dans notre être, et puis il y a le plan de la conscience, ce qu'on appelle le plan psychique, si vous voulez. Hein? Eh bien, normalement, oui, normalement, je ne dis pas que Dieu veuille tout le temps, Dieu n'est pas sadique, normalement, l'espérance des profondeurs, l'espérance théologale, alimente un certain espoir psychique. Hein? De sorte qu'il se fait dans notre cœur une espèce de mélange entre l'espoir et l'espérance, et ce mélange n'est pas forcément mauvais, mais il a quelquefois besoin d'être purifié de façon à ce que notre espoir, même psychique, repose uniquement sur l'espérance qui elle-même repose sur la foi plus précieuse que l'or. C'est ça le creuset. Alors pour ça, il faut quelquefois qu'on passe par des moments de désespoir psychique dans l'espérance théologale. Ces moments-là sont ceux où, comme dit l'auteur des Hébreux, de l'épître aux Hébreux à propos d'Abraham, ces moments-là sont ceux où on espère contre toute espérance. Non pas à la force du poignet, mais parce que, au-delà de notre désespoir psychique, il y a quelque chose en nous que nous ne connaissons pas, qui est beaucoup plus mystérieux que tout ce que nous pouvons, que nous ne fabriquons pas, qui n'est pas un effort de volonté, qui est l'espérance théologale elle-même, qui est Dieu-même présent en nous et soutenant notre espérance. Alors si on accepte de laisser l'espérance, si je peux dire, se dénuder de tous les espoirs un peu humains dont nous aimons à le revêtir, et par conséquent, si on accepte d'entrer en détresse, je dirais un peu comme on entre dans un monastère, comme on entre au couvent, c'est ça ? Eh bien, on entre en détresse dans la mesure où on accepte que l'espérance théologale ne soit pas nourrie et ne nourrisse pas d'espoir humain. À ce moment-là, si on a justement ce que j'appelle ce courage ou cette générosité, cette folie, Dieu a pitié de nous. Et ou bien on paraît devant lui, on meurt et on le trouve, ou bien il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose de l'ordre de ce qu'il a fait pour le bienheureux Jacques de Voragine. Oui, c'est toujours comme ça. Mais relisez, voyez la vie des saints. Hein, à chaque fois que Dieu s'est manifesté d'une manière un peu extraordinaire, il y a eu une détresse de ce genre. Même chez Catherine Labouré, ce désir qu'elle avait de voir la Sainte Vierge. Pourquoi ? Je vous demande un peu. Hein, pourquoi avoir besoin de voir la Sainte Vierge ? Ça peut être de la rêverie. Et oui, ça peut être de la rêverie. Mais en ce moment, si c'est le Saint-Esprit qui alimente cette rêverie, la rêverie tombe au bout d'un certain temps, tout espoir humain tombe et demeure le désir. Alors c'est la détresse. C'est la détresse parce qu'on ne peut pas renoncer parce que cet esprit est là et qu'on est obligé de renoncer apparemment et humainement parce que Catherine a dû s'en rendre compte qu'elle était complètement folle, enfin, que ça n'arriverait pas. Vous comprenez que humainement parlant, c'est impossible. Eh bien, vous, Imelda, c'était la même chose. Humainement parlant, c'était impossible qu'elle communie. Il n'y avait aucun espoir, c'est ça qu'il faut bien voir. Aucun espoir humain. Et elle n'a sûrement pas rêvé imaginativement la façon dont ça se passe. Elle a peut-être pu rêver imaginativement ceci ou cela, mais ce qui est arrivé, ça n'est ni ceci ni cela. C'est justement, ça n'est jamais ce qu'on rêve qui arrive. Mais c'est ce qu'on désire. Nos désirs sont toujours satisfaits. Nos rêveries, c'est une autre histoire. Vous voyez, seulement le désir entraîne forcément un peu des rêves, et quand les rêves sont démolis, alors intervient la détresse. Et quand la détresse intervient parce qu'elle est soutenue par l'amour, alors intervient la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu, et c'est pour ça que l'espérance ne trompe pas. Spes non decipit. Vous voyez. Et là, alors, arrive la gloire. La gloire qui a emporté la bienheureuse Imelda. Mais il faut comprendre que ça tout de même était précédé d'un drôle de truc. Hein, c'est que elle a connu quelque chose qu'au fond nous n'avons peut-être pas encore connu. Et je parle en fait de détresse, en fait de faim et de soif de Dieu. Ça lui a été donné dans son enfance, tout à fait d'accord, parce que Dieu a vu qu'il pouvait jouer avec elle le jeu que la sagesse aime à jouer avec les enfants des hommes. Apparemment, elle n'y a pas eu grand mérite, elle a peut-être eu beaucoup plus de mérite que nous ne pouvons le penser, comme la Sainte Vierge qui n'a pas eu grand mérite à nos yeux au fiat de l'Annonciation. Nous ne comprenons pas très bien en quoi consiste ce mérite, n'empêche que se laisser labourer par Dieu à ce point-là, sans chercher sa consolation sur la terre, sans se distraire avec autre chose, vous voyez, se laisser enfoncer dans cette soif désespérée qui devait être celle d'Imelda, ben c'est méritoire. Ouais, c'est très méritoire, même si ça se fait tout simplement. Et l'avantage des enfants, c'est qu'en effet, ils n'ont pas beaucoup de solutions de rechange. Et eux, c'est vraiment, ils sont plongés, ils ont faim, ils ont soif, et puis c'est comme ça. Et cependant, dans la mesure où leur liberté s'exerce, ils ont du mérite. Alors, il faut bien comprendre pourquoi, dans la vie des saints, il y a tellement de consolations, quelquefois tout à fait extraordinaires, et pourquoi, en même temps, on nous dit, attention, il faut accepter l'obscurité de la foi. Mais c'est précisément... Quelqu'un qui n'accepte pas l'obscurité de la foi ne recevra pas les grandes consolations de Dieu. Parce que les grandes consolations de Dieu sont offertes à ceux qui acceptent l'obscurité et l'austérité de la foi jusqu'à un degré de détresse tel qu'il a pitié d'eux et qu'à ce moment-là, il fait quelque chose. C'est une des premières raisons pour lesquelles il ne faut pas couper du tout les consolations authentiques avec l'obscurité de la foi. L'obscurité de la foi les prépare. Et puis, une autre raison dont je vous parlerai, c'est que l'obscurité de la foi, en fait, est soutenue par, je dirais par une consolation transcendante à toutes les consolations dont je désespère un petit peu de parler, mais voudra bien, je sais d'y arriver. Donc, je voulais vous parler de la bienheureuse Imelda comme d'un premier exemple d'assomption, et tout ce que je viens de vous dire est une espèce de glose ou de paraphrase autour de la bienheureuse Imelda. Bon, alors maintenant, prenons le second exemple, il est déjà beaucoup plus complexe, et il nous avertit déjà que notre situation à nous, ben, il ne faut pas trop s'étonner non plus qu'elle soit plus complexe que celle de la bienheureuse Imelda, encore que, je vous ai fait remarquer que la situation de la bienheureuse Imelda était plus complexe qu'il n'y paraît, car elle a été précédée par ce désert, par cette mort, elle est morte de faim et de soif d'une certaine manière. Ben, c'est pas très drôle. Bon. Donc elle a eu sa croix, elle aussi. Vous voyez, même la mort de la bienheureuse Imelda a été précédée tout de même d'une sorte de mort crucifiée. Elle aussi. On peut pas complètement couper. De même que l'Assomption chez Marie a été précédée de Marie au pied de la croix, ben, de même la glorification d'Imelda a été précédée d'une sorte d'agonie qui a reproduit dans son cœur et dans son corps, à sa mesure, ce qui manque à la passion du Christ, en splendeur, car il est évident qu'il ne manque rien à la passion du Christ en efficacité, mais en beauté, oui, il lui manque toute la splendeur du corps mystique, parce qu'il n'est qu'un individu et qu'il peut être des milliards. Eh bien, le deuxième exemple, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, faisant son chemin de croix après, je pense, si mes souvenirs sont exacts, je ne les garantis pas absolument, après avoir découvert la consécration à l'amour miséricordieux, qui a été une de ses grandes découvertes, un des grands, grands événements, un des grands moments de son évolution spirituelle, eh bien, elle a été, au cours de ce chemin de croix, traversée d'un trait de feu, dit-elle, analogue, si vous voulez, à celui qui a traversé aussi Thérèse d'Avila, lors de la transverbération qu'on fêtait autrefois le 27 août, et elle a dit, une seconde de plus, et c'était fini. Alors, ici, l'exemple est plus complexe. Vous voyez? Et nous allons aborder les choses dans l'autre sens, maintenant. C'est pas? Jusqu'ici, j'ai envisagé ce qui précède, en somme, l'Assomption. Que ce soit l'Assomption de Marie, ou l'Assomption d'Imelda. avec Thérèse de l'Enfant Jésus, on va pouvoir envisager ce qui suit, ça devient très paradoxal, ce qui suit l'intrusion de la gloire dans une âme. Vous voyez, j'admets avec Thérèse de l'Enfant Jésus que une seconde de plus et ça y était. Hein, j'admets ça. Autrement dit, une seconde de plus et il subissait exactement le sort et la mort de la bienheureuse Imelda. C'était vraiment comme Paul pour le troisième ciel, tangent. Hein, bien. Donc elle a senti passer le feu de la gloire, elle a senti que notre corps d'argile ne peut pas, notre corps poussiéreux ne peut pas supporter, être animé par une âme glorifiée, alors qu'il peut être animé par une âme en état de grâce, et même par une âme en transit vers la gloire, je vous expliquerai tant bien que mal ce que ça veut dire, mais si cette gloire vient à peser un peu trop fort, même toujours en étant dans l'obscurité de la foi, car elle n'a pas dit qu'elle voyait les cieux s'entrouvrir comme Étienne au moment de sa mort, elle n'a pas dit ça, Thérèse, elle n'a pas dit qu'elle voyait à ce moment-là, elle a dit qu'elle sentait, elle a senti le feu. Elle a senti donc le feu de la gloire, le feu que Jésus est venu jeter sur la terre, le feu de l'amour. Elle a senti le poids et la densité de ce feu et elle a compris que si un instant de plus, si ça continuait à la brûler, elle ne pourrait plus rester sur la terre. Par conséquent, on peut dire que si Dieu n'avait pas arrêté les frais, en somme, ben elle aussi serait morte d'Assomption. Et quand on envisage toute la courbe de la vie de Thérèse, depuis ce moment-là jusqu'à la fin ultime de son pèlerinage, eh bien, on peut dire qu'en fait, elle est morte d'Assomption. Et tout se passe comme si, c'est extrêmement mystérieux, je sais pas, je voudrais trouver une comparaison, parce que je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas, il doit y avoir des images. Je m'excuse d'avoir la recherche des images, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour prêcher si ce n'est utiliser des images? Après tout, le Christ a bien utilisé des paraboles. Alors elles ne valent pas quelquefois 4 sous de mes images, mais quelquefois ça aide à comprendre. Mais, oh là là, qu'est-ce que je pourrais... C'est un peu la notion de mesure pour rien. C'est pas seulement la notion de mesure pour rien, c'est... La notion de, voyez, voilà, vous avez un fruit, il est là, vous prenez ce fruit, vous le portez à votre bouche, vous commencez à sentir la saveur du fruit, et à ce moment-là, une main se pose sur vous et dit, arrête. Au fond, c'est un petit peu comme au cinéma. C'est peut-être encore le meilleur exemple. Le cinéma, quand on tourne une séance au cinéma, c'est ça, le metteur en scène est là, et puis voilà, vous prenez un fruit dans une coupe, il y a l'acteur, vous le portez à votre lèvre et vous mangez. Bon, alors l'acteur, il y va, hein. Bien. Et puis on commence à faire la prise de vue. Alors, l'acteur donc porte le fruit à sa bouche, et au moment où le fruit arrive à sa bouche, le metteur en scène dit, coupez, stop, coupez, arrêtez. Alors, on coupe, et la scène s'arrête juste au moment où le fruit arrive à la bouche. Bon, il dit oui, c'est pas tout ça, mais il faut faire un playback, il faut faire autre chose. Et alors, à partir de ce moment-là, il tourne toute une série de séquences où il est question de toute autre chose, et d'ailleurs beaucoup plus désagréable dans l'ensemble que de manger le fruit. Et puis quand les autres choses ont été tournées, alors on revient au fruit et on termine. Vous comprenez? De sorte que si vous faites abstraction de cette parenthèse qui peut durer des heures, bien, le mouvement n'a pas été interrompu, n'est-ce pas? C'est vous le portez à votre bouche, stop. Bon, je passe différentes choses. Bon, et puis quand ça s'est passé, bon, finissez. Hein, bien, vous portez un verre d'eau à votre bouche, il est là, arrêtez. Bon, on s'occupe de jouer un interlude, c'est ça, un interlude. Et puis on finit le verre. Eh bien, entre le moment de la flèche de feu et le moment du credo final, voilà, je vois une continuité. C'est le même mouvement. Oui, voilà ce que je veux dire. C'est simplement, il y a eu un stop. Arrête. Bon. Puis, entre les deux, ben, il s'est passé des choses, incontestablement, et des choses qui sont de l'ordre de l'agonie, de la passion, de la mort, des choses terrifiantes. N'empêche que ce sont des choses qui n'ont été qu'une sorte de pause. Voilà. Vous voyez, comme si le temps s'arrêtait, et comme si, en fait, on pourrait théoriquement faire abstraction de tout ce qui s'est passé entre ce trait de feu et le credo final de la gloire de Thérèse. Vous voyez ce que je veux dire? Que la coulée est en continu. Ce n'est qu'une parenthèse qui s'est introduite à l'intérieur d'un seul et unique mouvement de glorification. La glorification a commencé à ce moment-là. Et puis elle a été comme stoppée pour qu'intervienne une parenthèse. Le temps a été comme suspendu, si vous voulez. Puisque une seconde de plus, ça y était. Eh bien, la seconde n'a pas eu lieu. Et la seconde a duré, je ne sais pas combien, moi, 2 ans ou 1 an et demi. La seconde ultime. Et quand ça a été fini, bon, on reprend, et comme si de rien n'avait, comme si rien n'avait existé avant, la gloire qui s'est arrêtée à la porte. Vous comprenez, c'est ça. La gloire arrive, arrête. Bon, j'ai encore quelques petites dispositions à prendre, les acteurs ne sont pas bien posés comme il faut. Bon, alors la gloire est là, elle attend, elle est figée, dans une immobilité due à Dieu, et quand tout est fini, allez, maintenant tu peux y aller. Comme si Dieu avait eu un instant de distraction, n'est-ce pas ? Il avait oublié de prendre toutes les dispositions voulues pour que puisse partir la fusée, comme si la fusée était mise à feu, et puis qu'au moment où elle est mise à feu, arrêtez. Alors elle reste comme ça, voyez ? Puis alors les techniciens s'affairent autour de la fusée, creusent des trous, plantent des clous, crucifient, font tout ce qu'il faut. La fusée est déjà partie. Mais elle est immobilisée par une volonté divine. Et puis quand tout est fini, quand tout est prêt, ça, laissez partir. Alors, le mouvement commencé continue comme si de rien n'avait été entre les deux. Ça, c'est impossible, évidemment, humainement, c'est impossible physiquement, spirituellement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, c'est l'impression que me fait cette histoire du trait de feu suivi du credo de gloire. Vous voyez, il n'y a pas une interruption réelle. Et cependant, que de choses mystérieuses se sont passées entre-temps. Alors, quand on regarde le mystère du Christ, on trouve quelque chose d'analogue, mais de rigoureusement analogue, avec la transfiguration et la résurrection. Ça. La transfiguration, c'est le trait de feu, ça y est, il va partir. Et puis, non, stop! C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est pas encore tout à fait prêt. Tout n'est pas prêt pour venir aux noces. Alors, il redescend avec ses disciples. C'est fini les rêveries. Il faut entrer dans la réalité de cette glorification. Et cette glorification est beaucoup plus lourde, beaucoup plus redoutable, beaucoup plus mystérieuse que les apôtres ne pouvaient le soupçonner, les pauvres, comme ça, hein, dans le midi, n'est-ce pas? Eh bien, il leur a dit non, c'est parti, oui, la fusée est partie, mais stop. Elle ne peut pas complètement décoller encore, tout n'est pas tout à fait consommé. Je ne peux pas encore dire ce que je dirais sur la croix. Tout n'est pas consommé. Alors, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort pour que ce dont vous avez vu l'amorce sur le tabord s'achève. Pourquoi faut-il qu'il y ait cet interlude? Vous êtes intermède, qui n'est qu'un interlude et un intermède. Alors ça, c'est certainement pas ce soir que je vais vous le dire, encore que vous le savez d'après l'enseignement de l'Église. Enfin, si nous reprenons l'enseignement de l'Église un petit peu dans la lumière de cette question, je n'ai pas envie de répondre maintenant, je chercherai de répondre demain. Mais je voudrais simplement ce soir vous dire, attention, en effet, ce n'est qu'un interlude. Ce qui veut dire que pour le Christ, comme pour Thérèse, comme pour nous, quelque chose a été amorcé, qui est de l'ordre de la gloire. Et là, en ce qui vous concerne, vous me permettrez d'en avoir une preuve, qui est tout simplement cette agglomération de blancheur que vous offrez, qui, oubliez un instant toutes les traditions qui font que cet habit religieux vous paraît courant, banal, il ne sera peut-être plus d'ici peu de temps, mais enfin, ça, pour le moment, il peut vous le paraître encore courant, banal, et imaginez une société qui sache pas ce que c'est, qui n'ait jamais entrevu quoi que ce soit de ce genre, une société vraiment comment est-ce qu'on dit, oh là là, sécularisé, voilà, bien sécularisé, hein, bon, et qui ne savent plus du tout, qui ne demandent pas mieux que de rendre hommage à Dieu, mais enfin, pas de folie, n'est-ce pas, aimons-nous les uns les autres, très bien, et puis restons comme ça. Et puis, brusquement, ils voient ça, ça. Eh bien, ils auraient le réflexe d'Hérode, la robe du fou, hein, la robe blanche, comme par hasard, justement. Je suis habillé avec une robe blanche, je vois pas, hein, bon. Mais supposons que, justement, on passe outre à cette, en effet, ou bien c'est de la folie, ou bien c'est de la gloire, qui vous est déjà un peu arrivé dessus. C'est quand même tout à fait insolite. C'est pas, encore une fois, si vous faites abstraction des institutions de l'Église, mais les institutions de l'Église elles ont été créées, il a bien fallu qu'un jour elles commencent. Et ce jour-là, dies, jour de folie que ce jour-là, n'est-ce pas, jour de colère, mais de colère de la gloire de Dieu, la colère de l'amour qui explose et qui se revêt de blancheur, parce que la gloire nous a touchés quand même. Alors, on fonce dans la vie religieuse. Et puis, qu'est-ce qu'on rencontre? Eh bien, un interlude, un intermède. C'est pas du tout la gloire. C'est comme les Hébreux quittent l'Égypte pour la conquête de la terre promise, et puis tombent dans le désert, et ils disent, mais c'était pas la peine. On aurait mieux fait, on serait mieux mort en Égypte, tant qu'à mourir, hein. On mourrait mieux en Égypte que dans ce désert. Parce qu'il y a tout de même, en effet, le mystère de l'interlude et de l'intermède. Mais attention, en fait, la fusée est déjà mise à feu. La gloire nous a touchés, et il en reste quelque chose de tangible et de visible, je vous dis, dans votre habit, dans votre situation, même si nous risquons toujours de l'oublier, de ne pas être fidèles au dépôt, de ne pas nous souvenir, memento Israël, souviens-toi, non pas pour rêver, mais pour ne pas oublier la réalité de l'avenir. N'oublie pas que tu es entre deux séquences de mise à feu. N'oublie pas que tu es entre deux explosions, celle qui t'a mené ici et puis celle qui t'emmènera pour toujours. N'oublie pas, Israël, que tu es en pleine traversée du désert, qu'il y a eu l'explosion de la traversée de la mer Rouge et qu'il y aura l'explosion de l'entrée dans la terre promise. N'oublie pas. Voilà. Nous pouvons oublier. Mais le processus est amorcé, enclenché déjà. Et ce processus, c'est celui de l'Assomption. Voilà. Nous sommes tous destinés à l'Assomption. Alors vous me direz, ben oui, mais il y a tout de même des complications. Bien sûr, c'est une Assomption avec des complications. Ben, le Christ aussi. C'est justement ça, le destin du Christ. C'est une Assomption, c'est une transfiguration, mais avec des complications. Et cette énorme complication, mystérieuse, fascinante et aux yeux de Dieu plus belle que la transfiguration, qui s'appelle le mystère de la croix, et dont nous essaierons de parler.